prendre la main, ce sera mieux pour moi. Merci. Bonjour à chacun et à chacune, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation et j'allais dire l'honneur qui m'est fait, même si en réalité je viens pour vous servir et ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai, je viens en tant que voisin et je suis chargé des salutations de l'Assemblée de Dieu de Chambéry, mais je viens aussi en tant que frère. Et c'est ça qui est la beauté du corps de Christ, c'est que peu importe finalement le nom, l'étiquette que l'on pose sur l'Église, nos différences, peu importe cela, ce qui compte, c'est que ce qui nous unit, c'est le même esprit, c'est celui de Christ. Amen. Et donc, je suis heureux de pouvoir partager cette parole avec vous ce matin. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de feu. Alors, ceux qui me connaissent savent que le feu fait partie un peu de mon histoire. D'ailleurs, mes collègues se moquent un peu de moi à cause de ça, parce que là, je suis à ma troisième église en tant que pasteur à temps plein. Et sur les trois églises, les deux précédentes ont brûlé toutes les deux. Voilà. Donc, le feu, je connais un peu. Non pas que c'est moi qui ai mis le feu, hein, même si c'est un peu de ça dont me disent mes collègues que partout où je mets le feu. Mais j'avais à cœur de vous parler de feu parce qu'effectivement, la parole de Dieu en parle abondamment. Et il y a un texte en particulier qu'on va voir ensemble dans Lévitique qui vient nous faire réfléchir sur le bon feu. Et le feu, quand on y pense d'une manière générale, ça peut être à la fois des moments agréables, hein, des soirées entre amis autour d'un feu ou d'un simple barbecue, voilà, peut-être d'une soirée avec des gens que vous aimez autour d'une bonne cheminée où il fait bon vivre et vous passez des bons moments. Mais le feu, comme je vous l'ai dit dans ma propre histoire, parfois ça peut renvoyer à des souvenirs douloureux, à des choses difficiles, parce qu'effectivement on a tous en mémoire l'incendie de Notre-Dame qui a ému le monde entier, mais l'histoire est remplie d'incendies mémorables. Et le feu, il peut avoir ses deux vocations. Il peut à la fois être une source de bénédiction, une source de grâce, une source de richesse, mais il peut aussi être dévastateur et faire des dégâts terribles. J'aimerais lire avec vous donc ce texte dans Lévitique, chapitre 9. On va lire à partir du verset 23 et on va s'arrêter au verset 3 du chapitre 10. Lévitique 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Dans ce texte, nous avons deux types de feux, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, un bon et puis un qui va avoir des dégâts terribles sur la vie de deux hommes. On est dans un contexte assez particulier puisqu'on est au moment de l'inauguration de la tente de la rencontre. Dieu avait donné tous les plans, toutes les dimensions, tout ce qu'il fallait à Moïse. Il a fallu tout le temps de la fabrication, le temps de la mise en œuvre. Et là, la tente a été posée, installée, le tabernacle a été mis en fonction. Les sacrificateurs, Aaron, ses fils, ont été mis à part. Ils ont été sanctifiés. Ils ont fait toutes les choses telles que Dieu leur avait demandé de faire. Et donc, ils ont offert un sacrifice sur l'autel. Et puis, Moïse et Aaron rentrent dans la tente de la rencontre. Et lorsqu'ils en ressortent, eh bien, Dieu manifeste sa gloire. Et le feu vient consumer le sacrifice qui était posé sur l'autel. Et là, nous assistons à cet événement où, effectivement, le peuple est dans la joie parce que Dieu a agréé le sacrifice qui lui avait été offert. Il y a ce feu qui est sorti de devant l'Éternel, et ce feu, finalement, c'est la manière visible que Dieu a utilisée pour démontrer qu'il acceptait le sacrifice. Dieu a agréé le sacrifice offert en le consumant par le feu de sa justice. On connaît tous l'expression « ça a marché du feu de Dieu ». Hein, vous la connaissez, peut-être vous ne l'utilisez pas, par respect pour le Seigneur. Mais cette expression, elle dit simplement que ben, ça fonctionne bien, ça a marché, c'est super. Il y a une idée de validation, une idée d'approbation, et c'est exactement l'image ici, lors de, eh bien, de ce feu qui va consumer l'offrande, le sacrifice, c'est que Dieu agréait l'offrande qui lui est offerte. Dans les Écritures, eh bien, Dieu va souvent utiliser le feu pour révéler sa personnalité, révéler qui il est, révéler son caractère. Lorsqu'il va se présenter à Moïse, comment est-ce qu'il se présente ? Il se présente dans un buisson ardent. Le feu. Lorsqu'il va accompagner le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, il le fait à travers une colonne de feu. Lorsqu'il va juger le péché, eh bien, là dans notre histoire, c'est celui de Nadab et Abihu, il le fait par le feu, mais on le voit dans d'autres moments. Par exemple, si vous lisez Nombre 11, au début du chapitre, il y avait des personnes qui se mettaient à murmurer et il est dit que Dieu va allumer un feu pour juger son peuple. Lorsque Élie va être confronté au prophète de Baal, vous connaissez cette histoire ? Les prophètes vont faire toutes sortes d'incantations, de scarifications, ils vont appeler leur idole, mais rien ne se passe. Élie va lui construire un autel, il va mettre ce qu'il faut dessus, et puis il va demander à ce qu'il soit mouillé à bien des reprises, pour qu'on ne puisse pas dire « c'est parce que c'était sec, ça s'est enflammé tout seul ». Mais lorsqu'il va appeler eh bien, à ce que Dieu se manifeste, le feu de Dieu va descendre et va consumer eh bien, ce sacrifice, et le peuple de Dieu va déclarer « c'est l'Éternel qui est Dieu ». Amen. Dieu lui-même se décrit dans Deutéronome 4, 24 comme un feu dévorant. Le feu, c'est vraiment une notion qui est assez présente dans les Écritures. 400 fois, il est question du feu. Et le feu, c'est à la fois l'image de la justice, du jugement de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est dans notre passage, il démontre son approbation. Et puis, en ce qui concerne Nadab et Abihu, il va aussi démontrer sa colère face au péché, à la désobéissance. Le feu, c'est l'image de sa sainteté. Nous savons que nous purifions les choses par le feu, l'or éprouvé par le feu. C'est aussi l'image, et là je vais faire mon pentecôtiste de service, mais c'est l'image du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? À la Pentecôte, lorsque les langues viennent, eh bien, sur les disciples qui sont dans la chambre haute, ce ne sont pas des langues de neige, ce sont des langues de feu. Et puis le feu, ça nous parle aussi du zèle, de celui qu'il y a dans notre cœur, un feu qui brûle, celui de Jérémie, lorsque, à un moment donné, il était découragé, lorsqu'il voulait effectivement arrêter de faire ce que le Seigneur lui demandait, parce que ça lui causait trop de complications, trop de problèmes. Il en avait marre d'être la risée de tous, de ce que personne n'écoute ce qu'il avait à dire. Eh bien, voici ce qu'il dit, Jérémie 20, verset 9. Je ne ferai plus mention de lui. Enfin, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Le feu du zèle. Alors, vous savez comme moi que l'Ancien Testament, ce ne sont que l'ombre des choses à venir. Et que grâce à ce que Jésus-Christ a accompli et aux enseignements des apôtres dans le Nouveau Testament, nous pouvons avoir la pleine compréhension, la pleine révélation de ce que l'Ancien Testament nous annonce. Et nous savons que cette offrande, ce sacrifice sur l'autel, eh bien, devant le temple, devant le tabernacle, pardon, ce sacrifice que Dieu va agréer, il nous parle du sacrifice parfait de Jésus-Christ, celui que Dieu va agréer. Celui sur lequel Dieu va manifester pleinement sa justice, où il va à la fois manifester sa justice, il va à la fois manifester sa grâce, et il va à la fois allumer un feu débordant dans le cœur de celles et ceux qui le reçoivent par la foi. Amen. Dieu, on sait qu'il a agréé le sacrifice de Jésus parce que 3 jours après, eh bien, Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce sacrifice consumé par le feu, eh bien, c'est l'image de Jésus qui porte à notre place la condamnation du péché. Je ne vous apprends rien. C'est la justice de Dieu qui s'abat sur Jésus-Christ. Il prend à notre place la condamnation qui était la nôtre. D'un côté, le péché est condamné Et de l'autre, le pécheur, reçoit la grâce. Il reçoit la justification, la justice qui ne le détruit pas parce que c'est Christ qui a porté ce prix pour nous. Ce sacrifice, c'est là où on reçoit la grâce, le pardon. La présence de Dieu, d'une manière générale, elle semble comme invisible et inaccessible, mais à cet endroit, elle devient concrète, elle devient accessible, elle devient visible, elle devient palpable. Et cela nous parle de la croix, là, l'endroit où nous pouvons faire une rencontre avec Dieu. Amen. C'est à la croix, à ce sacrifice, que ce Dieu qui pourtant était inaccessible devient accessible. Nous savons ce qui s'est passé lorsque Christ est mort à la croix. Le voile s'est déchiré, le lieu très saint qui était inaccessible est devenu accessible. Et comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu, du Dieu de grâce, sans craindre maintenant, parce qu'il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Amen. Dieu manifeste sa présence, sa gloire dans nos vies par le sacrifice de Jésus. Avez-vous remarqué combien ce peuple, lorsqu'il voit le feu s'allumer sur l'autel, lorsqu'il voit cette offrande être consumée, combien le texte nous dit que cela a provoqué de la joie et de l'adoration dans leur vie. Amen. Il y a un feu qui s'est allumé dans leur cœur aussi. Ils ont vu que Dieu était présent et que Dieu validait ce qu'ils étaient en train de faire. Et je crois que c'est ce qui se passe nous aussi lorsque nous plaçons notre foi dans l'œuvre de la croix, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, il y a un feu qui s'allume dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes remplis d'une joie et d'une adoration que nous n'avions pas auparavant. L'œuvre de la croix est une œuvre extraordinaire, une œuvre exceptionnelle. Et lorsque nous réalisons que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, que nous sommes graciés, que nous sommes aimés de Dieu, il y a dans notre cœur un feu qui s'allume pour Dieu. Et comme pour ce peuple qui a mis sa face contre terre, c'est un geste d'adoration. Nous devenons nous aussi adorateurs de ce Dieu qui nous a tant aimés, alors que pourtant nous ne méritions rien. Le feu de Dieu. Lorsque Dieu manifeste sa gloire dans notre vie, alors notre cœur est embrasé pour lui, rempli d'un zèle. La révélation de son amour, la révélation de sa grâce envers nous, nous remplit d'un zèle pour le servir et pour lui donner gloire. Et je crois que c'est ce que produit l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste à nous. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il renouvelle notre intelligence. Il nous permet de percevoir et de saisir par la foi l'œuvre de Christ. Et ensuite, il nous conduit dans la vérité et il nous transforme de gloire en gloire pour nous rendre semblables à notre Maître Jésus-Christ. Amen. Et je crois que le seul moyen d'être de véritables adorateurs et de connaître la véritable joie, c'est justement de placer notre foi dans ce seul sacrifice que Dieu agrée, celui de la croix, celui de Jésus, celui qui transforme nos cœurs. Le sacrifice de Jésus restera à jamais la seule source de joie durable, la seule source qui conduit à la véritable adoration de Dieu. Combien on veut être embrasé pour le Seigneur ? Amen. Avoir une passion débordante pour notre Dieu. Et le seul moyen, d'être au bénéfice de ce feu qui vient du Seigneur et que Dieu agrée, c'est le sacrifice de la croix. Mais il est aussi question dans ce texte d'un feu étranger. Et c'est là où notre histoire justement ne s'arrête pas. Il y a un contraste saisissant entre cette fin du chapitre 9 et ce début du chapitre 10, où d'un côté, nous avons ce peuple qui est dans la joie, dans l'adoration, où Dieu va agréer le sacrifice qui lui est offert. Et puis d'un autre, nous avons les deux fils aînés de Aaron, Nadab et Abihu, qui vont prendre du feu, y mettre du parfum, s'approcher de Dieu pour le lui offrir. Mais le texte précise que c'était un feu étranger. Et à cause de cela, les deux hommes vont connaître le jugement de Dieu et ils vont mourir. Ce même feu qui a embrasé l'autel, qui a provoqué la joie, l'adoration et un zèle dans le cœur du peuple de Dieu, ce même feu va devenir une source de jugement et amener la condamnation sur ces deux hommes. Alors il y a plusieurs choses à noter ici pour bien comprendre ce qui ne va pas et pourquoi Dieu les a sévèrement punis. Le feu étranger signifie qu'ils ont pris du feu de chez eux au lieu de prendre celui qui était sur l'autel des sacrifices. Un peu plus haut, dans le Lévitique, il est question que le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre et que justement les sacrificateurs ont pour rôle, pour fonction, chaque matin, chaque soir, de veiller à ce que le feu soit bien entretenu et que le feu que Dieu a allumé, il soit maintenu en permanence. Mais là, il est précisé qu'ils vont prendre du feu ailleurs. Et il est même possible, ce sont des extrapolations quand on réfléchit au texte, mais il est fort probable qu'ils aient pris leur propre brasier, parce que si ce feu, il était de chez eux, ils l'ont amené de chez eux jusque devant l'autel. Ils n'ont pas forcément pris ceux qui avaient été spécifiquement façonnés pour le service au tabernacle, mais ils ont pris le leur et puis ils ont voulu l'amener auprès de Dieu. Le texte dit également qu'ils ont fait quelque chose qui ne leur avait pas été demandé. Ce n'était pas, à vrai dire, le protocole que Dieu avait instauré. Ce n'était pas à eux de le faire. On est dans un contexte d'inauguration et Aaron est le souverain sacrificateur. Et comme dans toute inauguration, c'est celui qui est le responsable, qui fait les choses. Il inaugure les choses. Et ça devait être normalement à Aaron de faire cette chose. La question que l'on peut se poser aussi, c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient deux à vouloir le faire ? Normalement, les textes nous montrent que c'est une personne qui vient présenter le parfum devant Dieu. Et puis aussi, ce n'était pas le moment de le faire. Les textes nous montrent que normalement, le souverain sacrificateur présente le parfum seulement lors de la fête du grand pardon. Autrement, le parfum doit être sur l'autel des parfums et doit être renouvelé simplement matin et soir. Et je vais même aller un petit peu plus loin, et là, c'est une réflexion, certains ont émis cette hypothèse, je ne vous demande pas forcément d'y souscrire, mais en tout cas, ça nous porte à réfléchir. Un petit peu plus loin, au verset 8 et 9 de notre texte, Dieu va parler directement à Aaron. Et jusque-là, chaque fois que Dieu a voulu parler à Aaron, il est passé par l'intermédiaire de Moïse. Mais là, et c'est la seule fois où il va le faire, il va s'adresser à Aaron, c'est juste après effectivement la mort de ses deux fils, et Dieu va lui parler effectivement de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de consommation d'alcool lorsqu'ils ont et ils sont de service. Alors la question c'est, est-ce que Nadab et Abihu peut-être étaient sous l'emprise de l'alcool à ce moment-là ? Peut-être n'étaient-ils pas effectivement en pleine maîtrise de leur capacité. On comprend bien, à la lecture un petit peu de tous ces éléments de réflexion, sur comprendre le contexte de pourquoi est-ce que Dieu a réagi de cette manière, que ce n'était pas simplement une simple négligence. Leur comportement, leur attitude devant Dieu, elle était clairement offensante parce que simplement ils n'ont pas respecté la présence de Dieu, ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu, ni même sa parole, puisqu'ils ont cherché à faire les choses à leur manière. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Premièrement, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que nous œuvrons pour Dieu que nous faisons forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on œuvre pour Dieu que forcément nous faisons la volonté de Dieu. Nadab et Abihu sont deux hommes qui ont été, c'est vrai, appelés, sanctifiés, oints, revêtus de leurs habits de sacrificateurs, revêtus de l'autorité que Dieu leur avait donnée, mais pourtant, ils n'ont pas accompli à ce moment la volonté de Dieu. Ils ont voulu servir, mais à leur manière, selon ce qu'eux pensaient qu'il devait être fait. Et je crois que tout ce qui ne trouve pas sa source, justement, dans le sacrifice de Jésus à la croix, ne sera jamais approuvé par Dieu. C'est, je pense, le cœur même de cet enseignement. Ils ont pris un feu qui ne venait pas de l'autel, qui n'était pas lié à ce sacrifice. Si nos dons, nos talents, nos appels, nos vies ne sont pas sanctifiés en Jésus-Christ, ils ne seront jamais à la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas sanctifié en Jésus et par Jésus produit la mort au lieu de la vie, au lieu de la joie et de l'adoration. Seule l'œuvre de la croix nous permet de pouvoir servir et d'adorer Dieu dignement. J'aimerais que l'on puisse avoir quelques exemples de feux étrangers. Le premier feu étranger que j'aimerais souligner, c'est le feu étranger des œuvres mortes. Lorsque Nadab et Abihu, qui ont pris effectivement du feu de chez eux au lieu de le prendre sur l'autel, on peut voir qu'ils vont vouloir servir le Seigneur eh bien, à leur manière. Et nous, ça nous parle de parfois que nous pouvons, sans même nous en rendre compte, vouloir servir le Seigneur avec notre chair, avec nos ambitions personnelles, avec nos capacités humaines. Mais c'est uniquement en Jésus que nous pouvons accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous et moi. Est-ce que vous savez que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour vous et moi, chacun d'entre nous ? Éphésiens 2:10 nous le dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça veut dire que chacun n'a pas d'excuses. Hein. On a tous des choses à faire pour le Seigneur. Tous, de ce que nous sommes, Jésus nous a appelés et il nous sanctifie en lui, il nous transforme afin que nous puissions mettre en œuvre eh bien, ce que Dieu a préparé pour chacune de nos vies. Et j'aimerais dire ceci, ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas le voisin qui peut le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, je ne connais pas suffisamment le milieu des églises baptistes, mais dans nos milieux, parfois, les gens ils ont tendance à croire que ben, le travail pour Dieu, c'est réservé aux pasteurs, c'est réservé aux évangélistes, c'est réservé à ceux qui ont consacré toute leur vie à l'église. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Ce n'est pas ce que nous enseigne Éphésiens. Les ministères dons, ils sont là pour justement faire en sorte que chaque membre de l'église puisse trouver son don, son appel et accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Amen. Mais pour pouvoir faire ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est en Christ que nous devons nous tenir. Et cela nécessite de notre côté d'accepter l'œuvre de la croix. Cela nous parle du brisement, cela nous parle du renoncement à soi. Parfois, on veut prendre des raccourcis, mais pour bien servir Dieu, il faut accepter que la croix fasse son œuvre en nous, que nous mourions à nous-mêmes. Vous connaissez cet enseignement que Jésus nous donne ? Il nous dit que si un grain veut porter du fruit, il faut d'abord qu'il meure à lui-même. Et c'est l'œuvre de la croix dans notre vie. C'est par cette œuvre uniquement que nous pouvons porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire à nous, pour la gloire de Dieu. Le grain de blé ne portera aucun épi s'il ne meurt à lui-même. Il restera dans la terre tel qu'il est, mais il ne nourrira en réalité personne. Je crois que les plus grands des talents, le plus grand des appels, n'a aucune valeur si le caractère de celui qui le porte n'a pas été transformé par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Dieu ne peut être glorifié que par lui-même. Si on fuit le brisement, alors Dieu ne pourra pas nous utiliser pour sa gloire, parce qu'en réalité, c'est la nôtre que nous chercherons. Et nous savons, parce que aujourd'hui, les œuvres chrétiennes sont très exposées sur Internet, et nous savons qu'il y a nombre de gens qui utilisent le nom de Dieu pour leur propre gloire. Celui qui a laissé Dieu briser sa rébellion et la puissance de sa chair permet à Dieu de l'utiliser réellement. Il permet à Dieu, par son esprit, de l'amener dans la bonne direction et de faire les choses telles qu'elles doivent être faites parce que son intelligence a été renouvelée, qu'il a appris à discerner ce qui est bien, juste et parfait et d'accomplir cette parfaite volonté que Dieu lui a révélée. Le feu étranger des œuvres mortes, en réalité, il nous épuise. Il nous épuise parce que le feu étranger des œuvres mortes, il nous pousse toujours à vouloir prouver quelque chose. Il faut toujours faire mieux, toujours faire plus, essayer de gagner sa valeur, essayer de gagner sa place. Le feu étranger des œuvres mortes, en réalité, il nous coupe du tout accompli de Jésus-Christ à la croix. À la croix, on reçoit tout par grâce. Ce que je peux faire, c'est par grâce que je peux le faire. Et les dons et les talents que j'ai reçus, c'est par grâce que je les ai reçus. Et si je ne le remets pas entre les mains du Seigneur, tout cela demeurera stérile. Un deuxième feu étranger, c'est le feu étranger du zèle amer. Jacques 3,16 nous dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Nadab et Abihu, ils ont été tous deux à se précipiter pour offrir le parfum à Dieu, tous les deux ensemble. Et on dirait qu'il y avait comme une forme de rivalité à la fois entre eux, mais aussi avec leur père, puisqu'ils ont voulu faire la chose à la place de leur père, et qu'ils se sont précipités tous les deux en disant bah, peut-être le premier qui va arriver, et ce sera le meilleur. Qui sera le premier à offrir le parfum ? Je crois que parfois, il peut y avoir des rivalités, des jalousies, de l'orgueil, des ambitions personnelles dans notre service pour le Seigneur. Et combien de fois, dans notre service pour Dieu, on peut agir justement motivé, sans même nous en rendre compte, par ces choses-là ? Lui, il a fait ça, alors ben moi, je propose de faire mieux, et faire plus encore. Ou alors, comme dans le monde, on est prêt parfois à jouer des coudes pour se faire bien voir, pour se placer, pour briller, pour que le pasteur nous repère et puis qu'il puisse nous donner peut-être le poste que l'on aimerait avoir. Et justement, ce feu étranger, c'est le feu de notre orgueil, le feu de nos ambitions personnelles, qui motive nos actions, nos paroles et ce que l'on fait. Mais attention, parce que si les hommes ne le voient pas, lui, Dieu juge les motifs de nos cœurs, de ce pourquoi nous faisons les choses. Vous savez, notre orgueil, notre ambition personnelle, elle peut se manifester de bien des manières, et parfois même nous-mêmes, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous voulons servir, par exemple, seulement si cela nous apporte quelque chose. Et si ça commence à nous coûter un peu trop, alors on préfère laisser la place aux autres, on préfère passer notre tour. Beaucoup, parfois, alors c'est peut-être que dans les églises ADD, je ne sais pas, hein, mais beaucoup ont l'appel de l'estrade, l'appel en vue, mais l'appel de la serpillière et du balai, personne ne l'a celui-là. Qu'est-ce qui se passe si Dieu veut que tu sois le deuxième, le troisième, le quatrième et pas le premier ? Est-ce que je vais dire non, Seigneur, c'est le premier ou rien ? Dieu a préparé des œuvres pour chacun et chacune d'entre nous. Souvent, nous nous mettons à juger, à critiquer celles et ceux qui sont à la place que nous aimerions avoir. Oh, il a fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Ou alors, des fois, nous disons, mais pourquoi il l'a choisi lui, le pasteur ? Je lui avais déjà dit que je voulais faire ça. Pourquoi c'est lui qui l'a choisi et pas moi ? Mais bon, il n'y a que chez nous qu'on pense comme ça. Et quand c'est comme ça, ou parfois quand quelqu'un, un frère, ou l'autorité dans l'Église, parce qu'il faut de l'ordre dans l'Église, n'est-ce pas, peut nous reprendre, nous corriger, on se dit, mais pour qui il se prend celui-là ? Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça ? On n'accepte pas la correction. Et nous pouvons parfois même... Dans